Ah. Et moi qui pensais être en retard.
Ah ben oui.
Ah.
Là, alors on est désappointé là.
Vous faisiez un brainstorming sur fond de caféine.
Sur fond de caféine.
Ah, on nous compter sur vous.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Voilà, la vidange, une voiture.
Ah merde.
Voilà. 100 euros le ster, monsieur. 100 euros le ster, c'est pas possible quand même.
Non, mais on arrive à la fin de l'hiver.
Voilà, c'est ça.
On arrive à la fin de l'hiver, on est au milieu.
Voilà, on est au milieu de l'hiver et la loi de l'offre et de la demande, et c'est scandaleux. Je m'insurge.
Dans ces cas-là,
100 euros.
Mieux vaut ster.
MDM. Tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Et cette même personne m'a dit que j'étais un illettré. Qui veut dire homme de lettres, en italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Mais ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Un, deux. Check, check. Un, deux. Ce serait marrant, ça, qu'on fasse des balances comme les musiciens. Un, deux. Check. Et c'est mon collègue, technicien Arnaud Mora, qui m'a appris à faire une balance.
Balance.
Ouais, je sais pas comment on dit en radiophonie, quand on fait un petit échauffement. Bonjour Anthony Clément.
Bonjour Anthony Hillcock.
Je vous ai dit que j'ai trouvé votre homonyme sur la chaîne L'Équipe.
Oui, c'est un journaliste sportif.
Ouais, il parle de foot, mais j'ai rien compris.
Oui, il avait envoyé un mot il y a quelques années.
C'est vrai?
Ouais, ouais, du genre, il s'était cherché sur Internet et tombé sur ma gueule.
Et il était content de, que ça soit un libraire plutôt qu'un dictateur?
Oui, ou qu'un catcheur accusé de violence sexuelle, oui.
Bon, écoutez, ça va pas nous faire une transition. Quand le local ou le régional rejoint l'actualité, on va parler de nos voisins gersois. Et puisqu'on parle d'actualité, on va parler de la fin du monde. On va rester dans le thème.
Mais en même temps, vous avez préparé un peu la chronique de ce matin, puisque c'est vrai, les éditions ouais. Tristram sont dans le Gers, ce sont la maison d'édition Occitaine, voilà, de Hoche,
ouais.
En les personnes de Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini, voilà, qui font un super boulot qu'on suit depuis des années, notamment pour leur grande traduction, Twain, Henry David Thoreau, des gens comme ça. Et de temps en temps, c'est vrai que leur domaine francophone étonne, surprend par leur manière de le traiter. Autant ils vont chercher des grands textes de la littérature mondiale dans le domaine anglo-saxon et préparent de magnifiques traductions, autant pour le domaine francophone, c'est généralement des manuscrits qui arrivent par la poste, comme celui-ci.
Et alors, particularité, il parle certes d'apocalypse, mais c'est presque un conte de fées pour son auteur.
On est dans une ambiance de fin du monde, mais on ne sait pas si l'humain est totalement disparu, et on attaque avec le personnage de Renard, qui va donner le nom au livre, qui s'appelle Rousse. Et donc on va suivre Rousse. Alors oui, on peut parler de conte, on peut parler de fable.
Bah, je voulais parler de conte de fées pour son auteur.
Ah, conte de fées pour son auteur.
Denis Infante, dont c'est le premier roman.
Exactement.
À 70 ans.
Travailler dans le monde du cinéma et du théâtre. Et oui, c'est son conte de fées pour l'auteur qui a à peine publié son texte en janvier, le 4 janvier.
Et envoyé par la poste à l'ancienne.
Envoyé par la poste. Alors, ils en reçoivent des tonnes et des tonnes, hein, Tristram. Mais celui-ci est arrivé par les moyens classiques. Et ça a été une révélation pour les deux éditeurs, l'éditeur et l'éditrice. Voilà. Et puis la grande librairie pour Denis Infante la semaine dernière. Donc voilà, vrai conte de fées et en même temps, le texte véritablement. Le conte aussi, ou plus une fable, on peut l'entendre même comme, parce qu'il y a un vrai souffle épique, donc on peut y voir une épopée, voire même une odyssée, puisqu'on va suivre Renard de sa jeune vie jusqu'à ses plus vieux jours, et toutes les péripéties qui en découlent. Et donc, on va partir donc de Bois de Chez, qui est la première zone un petit peu de ce conte. Puis, on va suivre cette fable épique comme ça, en partant à la rencontre des gens. Donc, on va rencontrer... Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est une sorte d'anthropomorphisme des animaux, des êtres, des arbres, voire même des nuages ou même du ciel. Une écriture dépouillée, sans article défini, indéfini ou possessif, parce que l'humain n'est pas là, et que c'est l'humain qui a cette tendance à identifier, à stigmatiser, à pointer du doigt en disant « la maison, un homme, une ours ». En fait, tout ça est dépouillé. Les éditeurs parlaient de singularité, et en même temps, quand on est adepte des littératures autochtones, c'est quelque chose que l'on connaît, parce que si on lit, par exemple, un recueil publié chez Gallimard il y a quelques années, qui compile quelques légendes amérindiennes, on retrouve cette idée de nommer les éléments, de les personnifier, de les rendre humains, et en même temps, c'est une erreur de procédé stylistique que de penser que... Enfin, c'est pas une erreur, c'est extrêmement humain même de pointer du doigt ce procédé, et c'est extrêmement libraire et comment dire, et initié au métier du livre que de faire ça, mais non, en fait, on est à hauteur de regard de renarde. On est à hauteur des pierres, des végétaux, des autres animaux, plus grands, plus petits. On ressent vraiment, il y a une vraie virtuosité dans la description, il y a des passages assez étonnants, et des passages, justement, sur les vestiges de l'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Renarde qui se fait ami avec Brune, qui est une ours attristée par la mort de ses petits oursons qui ont été dévorés par une meute de loups et qui poursuit cette vengeance et qui va tomber justement sur Renarde qui elle est encerclée par ces mêmes loups et donc va pouvoir enfin assouvir sa vengeance. Mais après, quand elles poursuivent leur chemin, puisqu'on est sur une ambiance de fin du monde, comme je le disais, l'humain a disparu, mais par contre la sécheresse, l'eau, le manque d'eau, manque eau et pratiquement personnifié aussi, c'est vraiment un élément absent mais présent dans le texte. Et donc du coup, elle traverse des plaines calcinées comme ça et se retrouve face à un vent chaud, horrible, rempli de poussière qui les aveugle, qui leur empêche d'avancer. Et elle trouve une petite cavité. Et cette cavité, en fait, c'est... j'annonce rien, c'est au début du livre. Mais c'est une vieille carlingue d'avion. Mais on le comprend après. Parce que voilà, elle gratte une matière étrange sur laquelle la griffe se voit, mais qu'il est impossible d'user. Elle gratte une matière étrange qui est transparente comme la glace, mais qui n'est pas de la glace qui est chaude, et on comprend que c'est un hublot, évidemment, d'avion. Et tout ça est très, très intéressant, comment il a réussi, Denis Infante, dans ce texte, à rendre le regard des animaux, des éléments, même des phénomènes climatiques.
On est dans l'objet, là, quand même.
Ouais, on est sur un objet qui met presque les larmes aux yeux de temps en temps, puis qui fait rire aussi, et puis surtout qui interroge, parce que derrière, évidemment, cette simplicité et cette naïveté du récit des animaux, des arbres et des éléments, on a évidemment la perception de ce qui nous attend, de ce qui nous arrive si le sens continue à s'échapper de nos actions et si on remet pas un peu d'intelligence dans tout ça, parce que la fable, c'est aussi le moyen de faire comprendre des choses par la lecture, ouais, évidemment, mais c'est aussi le moyen de faire revivre des valeurs un peu perdues, éculées, ou qui ont été mises à la poubelle, ou poussées, évidemment, derrière les rideaux par cette société consumériste, capitaliste ou autre. Mais du coup, on revient à des sentiments de transmission, c'est-à-dire la transmission du savoir, la transmission de la tempérance, la transmission du respect des vies, et en même temps, c'est pas bisounours, parce qu'on est quand même dans un rapport très régulièrement de prédateurs et de proies, mais dans un respect de l'équilibre. Voilà. Et Denis Infante a réussi, je pense aussi par son passé dans le cinéma et le théâtre, à scénariser et à mettre en image un texte d'une belle valeur.
Le bouquin coche toutes les cases, il est dans l'actualité, on est entre l'Odyssée et la fable, ça s'appelle Rousse, et Denis Infante, 70 ans.
Et c'est sous-titré... ou les beaux habitants de l'univers. Parce qu'il est vrai qu'il se place en exergue du livre. On retrouve une phrase de Jean Giono, tirée du Chant du Monde, qui dit « Dans tous les livres actuels, on donne, à mon avis, une trop grande place aux êtres mesquins, et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. »
Donc au milieu de la pénombre, il y a toujours une lumière.
Ouais, et je pense que cette phrase-là, on oublie de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers, c'est aussi notre époque. Ouais, on oublie ça. On on est toujours dans la mesquinerie, sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans la division, et on oublie...
Les actualités avec...
Voilà. On oublie de montrer
avec
aux
du
enfants,
buzz et du drame.
Aux gens, à tout le monde, voilà, les beaux habitants de l'univers, il faut les, voilà, il faut les protéger, les considérer, voilà, les accompagner. Et je pense que c'est ça, le point de départ véritable de ce texte-là, c'est faire enfin une place aux beaux habitants de l'univers.
Vivons heureux en attendant la mort. Même la brutale mort. Même voilà. Avec une météorite.
Voilà, ça parle de mort, mais c'est pas la fin. Parce que sur, voilà, sur la mort, sur la putréfaction, pour être un peu trivial ou de trucs comme ça, voilà, remonte la vie. Et voilà, et ce texte, c'est ça.
Déjà, répondant à la question, y a-t-il une vie avant la mort? Merci Anthony Clément.
Merci Anthony.
Et en attendant l'apocalypse, Romain Baxer qui arrive comme un cheveu, façon de parler, au regard de vos excentricités capillaires, avant ou après l'apocalypse, l'intelligence artificielle.
Oui.
Non, c'est tout ça pour évoquer le rendez-vous de samedi.
Certainement.
Ce samedi 27 janvier. Que se passe-t-il dans ces murs?
Dans ces murs, samedi 27, donc à 19h, nous aurons la chance de recevoir Laurent Bibard, philosophe, et Nicolas Sabouret, informaticien, autour de leur ouvrage L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique. Ce sera un échange donc entre ces deux co-auteurs, modéré par Jean Arambat, qui va donc essayer de leur faire exprimer la substantifique moelle de cet ouvrage.
Ça sera marrant de faire réagir puisque c'est le dessinateur, Jean Arambat, sur l'intelligence artificielle dont s'est servi le nôtre de ses confrères, Thierry Murat.
Ah, voilà, tout à
transition.
Fait. Voilà, tout à fait. Ouais, Thierry Murat, on l'avait déjà chroniqué, hein, parce que lui, c'est un illustrateur qui s'est servi donc de l'intelligence artificielle pour sa dernière BD. Donc là, samedi, voilà, ça sera donc un échange entre le philosophe et l'informaticien sur cette question donc de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un ouvrage, pas besoin d'être philosophe ni informaticien pour le comprendre. C'est ça qui est intéressant avec des entretiens, avec un livre écrit à quatre mains pour donc traiter de tous les aspects, aussi bien techniques que sociétaux, qu'humains, hein, que pose l'intelligence artificielle. Donc vraiment, ça va être un rendez-vous très très ouvert, très large, à la fois très pointu, hein, parce que Laurent Bibard, je l'ai dit en début, d'entretien. Voilà, lui, c'est un enseignant, c'est un philosophe qui enseigne la politique, la sociologie et l'économie. Il est responsable de la filière management et philosophie de l'ESSEC. Vous voyez, l'ESSEC, la grande école de commerce française. Nicolas Sabouret, lui, est professeur à l'université Paris-Saclay, où il dirige la Graduate School d'informatique et sciences du numérique. Voilà, il enseigne l'informatique aux étudiants de l'université et de Centrale Supélec. Voilà, donc c'est vraiment deux enseignants de haut niveau.
Hein. Tronche.
Voilà, si on peut dire des gros cerveaux, comme on dit parfois. Voilà, pour traiter de cette question, donc ça va être passionnant. On vous attend tous et toutes.
Quelle heure déjà?
19h samedi.
Au revoir.